Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
Cube Radio.
Alors, annonce finalement, à l'heure du dîner aujourd'hui, du premier ministre, M. Trudeau. Il était accompagné de la ministre Mélanie Joly des Affaires extérieures et de la nouvelle ministre du Sport aussi. Donc, pour boycott des Jeux olympiques, boycott diplomatique. Quand on dit boycottage diplomatique, on veut dire qu'on n'a pas, on n'empêche pas les athlètes de se rendre aux Jeux, mais il n'y aura personne de représentant du gouvernement canadien, élus ou fonctionnaires qui vont participer aux cérémonies d'ouverture, de fermeture ou toutes autres cérémonies officielles. David Parot, professeur titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport, vice-président de la Société québécoise de droit international à l'Université de Sherbrooke. Bonjour.
Bonjour.
Professeur Pavot, qu'est-ce qui, dans la décision du Canada, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que c'était le seul choix, une fois que tous nos alliés avaient dit la même chose?
Ouais, c'est pas trop tôt. J'ai encore envie de dire c'est pas trop tôt. Ça fait plus d'un an et demi qu'un député au fédéral, Alexis Duceppe, a tiré la sonnette d'alarme. Ça fait un an et demi qu'on dort au gaz. Et puis, il a fallu que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, s'y mettre pour que notre gouvernement progressiste et respectueux des droits de la personne, tel qu'il s'auto-qualifie, et champion des droits de la personne, tel qu'il s'auto-qualifie, réagisse face à ce qu'on qualifie de génocide ou à tout le moins d'épuration ethnique vis-à-vis des Ouïghours par le gouvernement chinois.
Je vous soulève les objections. Il y a des gens qui vont dire, ben là, la Chine sont gros puis sont forts, on serait pas mieux, le Canada, on serait pas mieux d'être poli et gentil avec eux pour qu'ils achètent notre canola puis qu'ils nous sanctionnent pas sur le plan économique, qu'ils nous causent pas de troubles.
Ah mais oui, on pourrait toujours dire cela. Comme on pouvait dire certaines choses en 1936 à l'égard de l'Allemagne nazie, comme on pouvait dire certaines choses à l'égard du régime des Khmers rouges au Cambodge. Comme on pourrait toujours dire certaines choses et mettre l'économie au centre de tout. Sauf que là, on nous parle du crime des crimes, c'est-à-dire un génocide. C'est-à-dire une population qui est emprisonnée, dont les femmes sont stérilisées, dont, selon l'ONU, les organes sont prélevés pour des Jeux olympiques, pour du sport, je veux dire, ou pour de l'économie. Au bout d'un moment, il faut savoir mettre son point sur la table. Et même si on est un joueur médian au niveau diplomatique, savoir avoir une voix et avoir une cohérence et dire quelque chose. La voix du Canada, elle est censée peser dans l'opinion publique mondiale.
Est-ce qu'elle pèse moins aujourd'hui qu'il y a 25 ans?
Je pense qu'elle pèse moins qu'il y a 25 ans parce qu'on paye un certain passé, un certain effacement à la suite du gouvernement Harper, et on paye aussi, je pense qu'on fondait beaucoup d'espoir sur le gouvernement Trudeau. Et que ces espoirs n'ont pas été rencontrés, du moins qu'on n'a pas livré à la hauteur que le monde avait fondé des espoirs dans le nouveau gouvernement Trudeau. Donc oui, la voix pèse moins. Ça c'est vrai. Mais on a quand même une voix. Puis il faut la faire entendre. Puis là, enfin, on la fait entendre. Parce qu'on l'a fait entendre assez suffisamment. Tout ça, on pourra en parler après. Mais c'est quand même quelque chose d'important, je pense.
Il y a aussi des gens qui disent, ben faut pas mêler sport et politique. Là, si on veut faire entendre une voix politique, on la fait entendre dans les instances politiques ou à la limite par des sanctions économiques. Mais lorsqu'il est question de sport, on serait dans quelque chose de sacré qui est au-dessus de tout, où il n'est question que des athlètes qui compétitionnent selon les plus belles valeurs au monde. Vous répondez quoi à ceux-là?
Oui, pourquoi pas. Mais je leur dirais que les Jeux olympiques, c'est un sacré beau business. Hein. C'est des commandites, c'est plusieurs milliards de commandites. C'est à peu près eu entre 8 et 10 milliards de commandes, 8 et 10 milliards de revenus pour le Comité international olympique. Donc, lorsqu'on dit faut pas mêler sport et politique, il faut commencer par balayer chez soi. Et peut-être revenir à des jeux à taille un petit peu plus humaine, qui coûtent moins cher au pays, donc qui vont encourager plus de pays à candidater, et pas nécessairement des pays dont le respect des droits humains est questionnable. Puis peut-être revenir sur des jeux qui sont un peu moins gigantesques, donc revoir aussi le montant qu'on demande aux sponsors pour s'associer aux jeux.
Il y a des mauvaises langues qui disent, que les jeux coûtent tellement cher que bientôt, seules des dictatures comme Poutine et la Chine vont être capables de, c'est parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas d'opinion publique à gérer, ils peuvent mettre les fonds publics dans des affaires gigantesques, des affaires gigantiques que dans une démocratie, si le gouvernement investissait des milliards de même pour construire toutes sortes d'infrastructures temporaires, le gouvernement serait plus montrable.
C'est pas faux. C'est un argument qui se tient. Pour les prochains Jeux Olympiques d'été, les trois prochaines échéances, c'est Paris 2024, Los Angeles et après l'Australie. Je pense que c'est Melbourne. Je me trompe peut-être, mais c'est en Australie. Par contre, pour 2036, on nous dit Saint-Pétersbourg va candidater. Donc effectivement, puis on se rend compte qu'il y a certaines populations qui n'en veulent pas. En Suède et en Norvège, il y a eu des votes contre. En Suisse aussi. On se rend compte que le calendrier est complètement démentiel. Ouais. C'est-à-dire, Gilles Vigneault chante « Mon pays, c'est l'hiver » et au Québec, on rencontre même pas le cahier des charges parce qu'on n'a pas une piste de bobsleigh qui coûte des millions, et on nous dit que nos pistes de ski de descente manquent 10 mètres au massif pour pouvoir faire une descente olympique. Faut quand même revenir à des choses un petit peu plus réalistes sur ce qu'on demande au gouvernement et sur le prix qu'on demande et l'investissement qu'on demande au gouvernement. C'est certain que ça coûte beaucoup trop cher pour un événement qui dure trois semaines.
Je reviens sur le caractère politique des Jeux ou strictement sportifs, les nobles versus politiques. Quand la Chine tient des Jeux, est-ce que la Chine en fait un outil de propagande interne et internationale? Donc interne pour dire à sa population, regardez comment votre gouvernement, il est bon, il est grand, il organise les plus beaux Jeux de l'histoire. Et à l'international, même chose, pour présenter une belle image.
Ben, c'est certain que les Jeux Olympiques, c'est l'événement télévisuel le plus regardé au monde. Donc c'est certain qu'on va vouloir montrer une image d'un pays uni, qu'on s'en sert comme outil de marketing, et n'importe quel pays, que ce soit une démocratie ou un pays non démocratique, profite des Jeux Olympiques. Et c'est comme ça qu'on fait accepter les Jeux Olympiques dans nos démocraties, en disant c'est un outil de promotion, ça va promouvoir le tourisme, etc. Bon, on connaît toutes les controverses sur l'impact économique des événements sportifs. C'est un autre débat, mais on connaît le débat. D'ailleurs, il y en a un récemment chez nous avec la construction du stade de baseball à Montréal. Mais oui, c'est un outil de propagande. C'est un formidable outil de propagande.
Particulièrement pour le gouvernement chinois, là, qui est contesté,
C'est particulier. Pour deux choses pour le gouvernement chinois. Montrer à la face du monde la puissance de la Chine. La Chine a un objectif, hein. 2049, son objectif pour la Chine, c'est 2049. En 2049, la Chine veut affirmer son leadership sur le monde pour les 100 ans de la République populaire de Chine. Et on y va tout doucement.
Ça, c'est pas une légende, urbaine ou une théorie du complot, là. Pour vous, c'est un fait politique mondial que la Chine veut établir sa suprématie pour 2049 ou 2050.
Ben, il l'affirme. Il commence par l'affirmer. On voit aussi toute la rhétorique chinoise qui dépasse le cadre des grands événements sportifs, où ils sont de plus en plus agressifs. Je veux dire, en mer de Chine, par exemple, ils sont de plus en plus agressifs. Ils sont extrêmement agressifs aux pays du Pacifique qui commencent à réagir. On voit les sanctions économiques draconiennes qu'ils ont imposées à l'Australie, parce que l'Australie ose élever le ton et dire qu'il y a des choses qui sont pas normales. On voit ce qu'ils imposent à des personnes qui osent s'élever contre certaines choses qu'ils font. Je veux dire, vous et moi, on sera peut-être sur la liste des personnes qui n'auront plus le droit d'aller en Chine à la suite de cette entrevue, mais à la limite, c'est pas bien grave. Mais ils ont réellement une politique qui est de plus en plus agressive. J'invite les auditeurs à aller écouter les discours de l'ambassadeur de Chine au Canada pour voir à quel point c'est un pays qui joue la diplomatie du bâton et qui est de plus en plus qui pose de plus en plus son poing sur la table pour dire ça vous regarde pas, ça me regarde, moi c'est comme ça que ça marche. Donc ils sont vraiment de plus en plus agressifs, et les Jeux Olympiques servent à cette diplomatie qui vise à s'affirmer. Ils en font un outil diplomatique qui n'est pas qu'un outil sportif, ils en font un outil réellement diplomatique de rayonnement, d'affichage, de démonstration de leur savoir-faire technologique, de leur savoir-faire en matière de construction, en matière d'organisation de grands événements. Puis quand vous voulez organiser un grand événement, c'est bien plus facile de l'organiser dans une dictature.
Non, ça n'y a pas de doute.
Les manifestants, ils sont tenus à distance. Si nous, on a envie de manifester devant le stade olympique, on peut y aller. En Chine, c'est pas la même mayonnaise. Lors des Jeux olympiques de 2008, ils nous ont dit « Ouais, bah oui, le droit de manifester va être garanti ». Or, si on fait une recherche rapidement sur Internet, on va se rendre compte que les manifestants pouvaient venir manifester dans des enclos, fermé avec des forces de police tout autour. Moi, personnellement, dans une dictature, je ne vais pas m'afficher à manifester dans un enclos devant la police où on va me prendre en photo puis me jeter en prison 3 semaines après. Voilà. Donc, donc finalement, il y a pas. C'est un petit peu. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent chez eux, mais derrière, c'est quand même un vrai problème.
Très clair. David Pavot, merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.